Écoutez Radio Grenouille tous les premiers mercredis du mois depuis septembre dernier. C'est une émission spéciale qui s'appelle Sirène Blablabla, qui est consacrée à une discussion autour de la création en espace public, une émission qu'on a imaginée en partenariat avec Lieu Public, Centre National de Création des Arts de la Rue. Pour ce soir, nous allons aborder un thème qui allie art et technique, création 2.0, de l'idée à sa réalisation. Comment artistes et techniciens travaillent-ils ensemble? C'est une discussion qui va avoir lieu avec Pierre Andra, qui est le directeur technique de Lieu Public. Bonsoir Pierre.
Bonsoir.
Janie Jérémy, qui est chorégraphe, qui est de la compagnie Les Migrateurs Transatlantiques. Bonsoir Jérémy.
Bonsoir.
Douglas Eric Stanley, qui est professeur d'art numérique à l'École des Beaux-Arts d'Aix-en-Provence. Il intervient sur des champs tels que l'esthétique de l'informatique, l'interactivité, la robotique et la programmation. Bonsoir Stanley.
Bonsoir.
Et Mathieu Audejean et Angela Frère, qui sont tous les deux membres de la compagnie Panem et Circenses, et qui font également partie de l'association Les Fabricateurs. Bonsoir,
bonsoir
à tous les deux également.
Bonsoir.
Donc Mathieu Audejean est artiste et mécanicien ou technicien, je ne sais pas trop comment dire.
Je peux dire que maintenant je suis les deux en permanence. Longtemps j'ai été plutôt mécanicien, constructeur et d'autres choses aussi. J'ai une idée de spectacle qui me tourne dans la tête depuis une année.
On va en parler. Et Angela Frère, juste pour terminer, qui est étudiante en histoire de l'art, qui est conseillère artistique de la compagnie Panem et Circenses, et qui est artiste également.
Oui, c'est ça.
Voilà. Donc Mathieu et Angela, les fabricateurs Panem et Circenses, comment ça marche? C'est quoi exactement?
Donc Les Fabricateurs, c'est une association technique entre David Olivari, qui est ingénieur informaticien, programmeur, et moi-même, qui suis mécanicien, mais qui aussi fait des études en école d'art et des études d'histoire aussi. On s'est rencontrés sur un projet d'envergure pour la compagnie Malabar. Il s'agissait de construire un grand char mécanisé pour un spectacle. Et cette collaboration, qui a duré près d'un an, nous a permis de découvrir... Bon, David connaissait le champ de l'informatique, moi celui de la mécanique. On a découvert qu'on travaillait très bien ensemble, qu'on était parfaitement complémentaires pour concevoir des objets techniques complexes. On a abordé l'électromécanique, la robotique, que David connaît déjà. En tout cas, moi, j'ai découvert ça. Donc on a continué à collaborer sous le nom Les Fabricateurs pour différents projets. Donc un projet pour des chorégraphes parisiens de la compagnie 1000 Plateaux Associés pour leur spectacle Une pièce mécanique qui s'est joué cet hiver en région parisienne. Pour un ancien étudiant de la FER de Marseille, Ferran, on a conçu et réalisé un prototype de fauteuil roulant robotisé pour un projet de spectacle qu'il a. Et donc à la fin de notre collaboration pour Malabar avec David, moi j'avais découvert ce monde de la robotique et ça m'a donné une envie de spectacle, enfin en tout cas une envie de forme. Je savais peut-être pas au départ que ça serait un spectacle, en tout cas je le formalisais pas comme ça. Mais ça m'a donné envie de produire une forme autour de cet objet un peu étrange encore de nos jours, qui est le robot. Voilà, donc petit à petit, de fil en aiguille, j'ai conçu ce projet de transhumance mécanique qui mettra en scène un troupeau de robots. dans l'espace urbain.
Et il y a deux exemples des moutons qui vont faire partie de cette transhumance qui sont exposés juste devant le Longchamp Palace. J'ai oublié de dire que tous les premiers mercredis du mois, pour Sirène Blablabla, nous étions accueillis par le Longchamp Palace, donc sur le boulevard Longchamp, Bernard Lopis, qu'on remercie beaucoup. Et donc c'est une émission qui se déroule en direct et en public. Donc cette transhumance mécanique, c'est les fabricateurs qui fabriquent et c'est au nom de la compagnie Panem et Circenses ou alors,
Non, je pense que ce serait un peu dommage de résumer les choses comme ça, parce qu'en fait, on a monté une compagnie parce que la forme du spectacle s'est imposée, donc une compagnie devenait nécessaire, et elle devenait surtout nécessaire pour pouvoir intégrer d'autres personnes de d'autres disciplines. Il se trouve que nous, on est donc tous les deux à la base du projet et qu'on est les principaux concepteurs et réalisateurs des objets. Mais on s'entoure de personnes d'autres horizons. Il y a Isabelle Granier qui est costumière, donc Angela Frère qui est plasticienne et qui est conseillère artistique. Yann Guerrero qui est ici ce soir, qui est notre chargé de production. Voilà, c'est une structure qui se monte autour du spectacle. Nous, en tant que fabricateurs, en fait, c'est vraiment notre association amicale et professionnelle qui s'appelle Fabricateurs. Donc, après, faire une différence entre les deux, bon, c'est un peu artificiel, finalement, les deux se mélangent.
Qu'est-ce que ça va être, alors, cette transhumance mécanique ?
L'idée de départ, c'est donc de mettre en scène, dans l'espace urbain, des machines qui ne soient pas guidées par des hommes, mais qui soient autonomes. Donc proprement des robots. Et ce, sur le modèle d'un troupeau animal, qui est le troupeau de brebis. Donc, on entend les petites cloches des alpages.
Et, ils sont encore à moitié sauvages.
Ils ne sont pas bien domestiqués encore. Donc ouais, en fait, c'est vrai que si on rentre dans ce champ-là, en fait, il s'agit bien de créer une espèce de machine. Parce que le référent à l'animal réel, c'est le point de départ, c'est le fil directeur, c'est-à-dire qu'il va nous servir à modéliser des comportements, à passer de penser mouton à penser machine, c'est-à-dire transposer quelque chose d'organique dans quelque chose qui est technique et qui est une machine. Mais l'enjeu du spectacle, c'est vraiment de mettre en scène des machines qui deviennent les acteurs autonomes de ce qu'il y a à voir.
C'est un projet pour l'espace public. Qu'est-ce qui vous a amené à vouloir créer pour l'espace public, justement ?
Bon, donc moi,
vous sortez des Beaux-Arts, je crois. Hein ?
Moi, je sors des Beaux-Arts. J'ai jamais assumé de production artistique personnelle. Donc c'est la première. Pourquoi l'espace public ? C'est vraiment le projet qui a... Enfin, c'est l'envie de départ qui a fait que naturellement, on s'est tourné vers la rue. D'une part parce que c'est un champ d'exploration important, immense, que les machines qu'on conçoit sont en interaction avec leur environnement. Donc ça nous intéressait plus de se confronter à l'environnement... bouillonnant d'une ville plutôt que de rester je comparerais presque la salle au laboratoire du roboticien dans l'industrie. Que, oui, il y a un champ d'exploration qui se fait en laboratoire, mais on se rend compte et on s'en rend compte tous les jours autour de ce projet que quand il s'agit de passer dans des conditions extérieures, tout change, tout varie, il y a une complexité qui est très difficile à appréhender pour une machine. Et c'est ça qui nous intéresse, de se confronter à une diversité, à un foisonnement extérieur. Donc, pas de faire des bêtes de laboratoire, voilà, c'est ça.
Donc ce projet Transhumance Mécanique, c'est votre projet d'artiste. D'autre part, vous nous racontiez que vous aviez travaillé en tant que mécanicien-technicien pour la compagnie Malabar. Est-ce que ces deux activités sont très très différentes ?
En fait, non, elles sont complètement mélangées. C'est-à-dire que les idées artistiques, là, pour ce projet, elles naissent directement du travail d'atelier. rien que l'idée de départ, moi, elle ne m'est apparue, enfin, elle ne m'est venue que parce que je travaillais avec David sur des résolutions de problèmes techniques, informatiques et électroniques. J'ai découvert un monde, donc David m'a invité à découvrir ce monde. Et cette découverte technique m'a donné cette envie de forme artistique. Donc, et ça, c'est vrai pour l'idée de départ, c'est vrai aussi pour le travail d'atelier quotidien. Un aller-retour permanent entre la forme qui est principalement engendrée par des nécessités techniques et puis la confrontation de cette forme avec éventuellement d'autres formes artistiques. Et ça, c'est le travail qu'on mène ensemble avec Angela. Donc c'est vraiment pour moi un va-et-vient. Ça serait, enfin, je pense qu'Angela pourrait en parler pas mal de cette histoire de hiérarchisation entre les différents aspects. Je pense que c'est hors sujet en ce qui nous concerne. C'est vraiment un aller-retour permanent. Moi, je me pose jamais la question de savoir si ma démarche à ce moment-là elle est artistique ou purement technicienne. Finalement, le fait de s'arracher les cheveux sur un problème technique, ça permet aussi d'aborder un problème sous un certain angle, éventuellement pour le détourner complètement et pour aboutir sur quelque chose auquel on n'aurait pas pensé avant. Et il me semble que c'est le propre de la démarche artistique, de produire quelque chose qui n'était pas envisageable la seconde d'avant. Voilà.
D'accord. Angela, tu veux dire un mot donc sur quel est ton regard sur justement cette hiérarchisation ou pas, ces allers-retours entre savoir-faire et conception?
Oui, c'est vrai qu'on ne travaille pas du tout avec une hiérarchie entre les disciplines, puisqu'en fait, constamment, les discussions qui nourrissent le travail en atelier, elles se font autour tant du champ artistique que du champ technique. Et en s'amusant d'ailleurs ces derniers temps à voir à quel point ils peuvent être liés, ne serait-ce que dans l'histoire, cette distinction qu'on peut faire entre technique et artistique. Il y a énormément de champs qui l'ont blackboulé, comme le cinéma ou la radio, les fictions radio par exemple, la photographie. Donc c'est vrai que ça peut être une façon de regarder les choses, mais finalement nous on s'amuse plutôt à pas être dans cette façon de faire, même si les disciplines elles sont différentes. Enfin, effectivement, pour ma part par exemple, je suis pas technicienne. Donc forcément, il y a des choses qui ne m'intéressent pas, en un sens. Enfin, comme disait Mathieu une fois, mettre les mains dans le cambouis, c'est pas forcément quelque chose qui peut m'intéresser. Mais par contre, la rencontre entre les regards qu'on peut porter sur une machine, que ce soit les regards d'un technicien comme les regards de quelqu'un lambda qui en fait cohabite avec les machines constamment, enfin, c'est quand même quelque chose qui est très présent autour de nous. Et d'essayer de voir quel langage se construit avec cette base-là, cette base qui peut être assez forte techniquement sur ce projet, mais qui est en fait qui, à mon avis, veut raconter quelque chose du rapport à la machine de n'importe qui, qu'il soit technicien ou pas, ou les deux.
Douglas, donc je rappelle, vous êtes professeur d'art numérique à l'École des Beaux-Arts d'Aix-en-Provence. Comment ce rapport art et technique qu'on vient d'évoquer là, à travers d'un projet particulier, cette transhumance mécanique des fabricateurs et de Pan Am & Circenses, comment ce rapport art technique, artiste technicien se joue dans les arts numériques?
C'est complexe, il y a différentes approches et différentes attitudes. Je dirais tout d'abord, en ce qui me concerne, je rejette totalement la distinction. Hein. C'est penser un art qui n'aurait pas un rapport à la mise en forme, qui n'aurait pas du coup un rapport à ce qui rend possible cette forme. Bon, voilà, c'est quelque part... En tout cas, la distinction pour moi, elle est artificielle, et bien que, en même temps, il y a une question de tempérament qui est parfaitement repérable. Il y a des gens qui travaillent avec des technologies et qui vont pas forcément avoir une approche artistique avec cela. Et puis, oui, on rencontre des artistes, on rencontre même dans notre école, il y a des jeunes artistes qui fuient la technique, tout en faisant quand même de la peinture, qui est quand même une forme de technique. Donc c'est un peu débat, peut-être il ne faudrait pas trop rentrer là-dedans. La façon dont nous abordons, c'est que, en tout cas, on part du constat que tout cela fait partie de notre vie contemporaine. Nous vivons à l'intérieur d'une grande transformation épistémologique qui serait visible, lisible à partir des nouvelles technologies, qui serait peut-être pas réductible aux nouvelles technologies, mais en tout cas qui passe aujourd'hui par là. Et puisqu'on est artiste et puisqu'on vit dans ce monde, il faudrait nous regarder comment fonctionnent ces appareils, quelles seraient les idéologies qui vivraient là-dedans, quel rapport cela fait à l'être humain, l'espace, citoyenneté, mais aussi forme. Ça peut aussi être des choses, des questions assez classiques dans les beaux-arts, hein, forme, couleur, voilà, représentation, etc. Voilà, donc nous aussi, on met les mains dans le cambouis, on voit jusqu'où on peut descendre. Dans mon atelier, on descend assez profondément, mais parfois aussi, on reste en surface. Ça dépend totalement de ce qu'on veut faire, du contexte. Donc mon atelier, c'est pour parler juste spécifiquement de ce que moi je fais à l'intérieur de l'école. Je m'occupe d'un atelier qui serait que j'appelle un atelier d'algorithmie ou d'approche artistique de l'algorithme. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'on travaille le code, on travaille la programmation, mais on travaille aussi au-delà du code et de la programmation, et on voit comment ces formes de plus en plus importantes influence et modifie le travail artistique, du point de vue de la création. Voilà. Mais nous pouvons aussi... voilà, et donc ça peut nous amener à carrément regarder comment fonctionne un microprocesseur, comment on stocke la mémoire dans la machine, qu'est-ce que ça veut dire pour la représentation, par exemple. Et la formation d'une image sur l'écran, comment tout cela devient possible. Mais parfois aussi, on inverse. C'est-à-dire, probablement, ce qui m'amène ici dans la discussion ce soir, c'est une manifestation qu'on vient de faire. C'était en fin mars, qui s'appelle Enyorov. Et donc, Enyorov, c'est un...
C'est Foren à l'envers, il faut dire que c'est Foren à l'envers.
Voilà, donc c'est une... C'est... Qu'est-ce qui se passe? Alors, donc... Donc là, comme je disais, on considère qu'on vit dans un monde entouré de plus en plus de ces machines et aussi de ce qu'on a repéré comme des cultures populaires émergeant, pas forcément de ces formes, mais en tout cas qui utilisent ces formes. Des choses comme le flash mob, tout ce qui tourne autour de la musique, voilà, toutes ces histoires-là. Et aussi les jeux vidéo, voilà, une matière que nous utilisons beaucoup, que nous aimons beaucoup. Et donc c'est un jeune étudiant chez nous qui travaillait avec ces formes et qui cherchait un lieu où il pouvait exposer, montrer ses travaux, où ça aurait un sens, et il se rendait compte que ça n'existait pas. Et donc il a décidé de créer un festival qui s'appelle Enyorov, et qui est donc Foren à l'envers, où on essaie de repenser la notion de la fête foraine aujourd'hui. Ce serait quoi si on pouvait enlever de la fête foraine cette histoire qui a un peu encrassé ces dernières années, revenir sur une mode plus joyeuse, de l'amusement, même aussi sortir un peu des problèmes de l'art. Donc on considère pendant le workshop Enyorov où nous fabriquons cette fête, un petit workshop qui dure à peu près 3 semaines, nous n'utilisons même pas le terme installation, nous utilisons le terme attraction. Donc on pense directement l'idée de l'amusement. Et du coup, arrivent les nouvelles technologies à partir de cette problématique. C'est quoi l'attraction et c'est quoi, ce serait quoi l'événement, l'expérience attractive aujourd'hui? Donc, ce qui nous amène à travailler avec des nouvelles technologies, du coup, exactement à l'inverse de ce que je disais. On va, par exemple, si je décris, par exemple, une des attractions qui a été faite, c'est des étudiants, cette année-là, il y avait pas mal d'étudiants en première année, donc ils venaient tout juste de découvrir tout ça. Et ils ont fait une sorte de guitare Hero, mais au lieu d'utiliser des guitares, c'était des sièges, une sorte de siège musical où quatre personnes devaient synchroniser à s'asseoir et se mettre debout sur le siège. Voilà. Et pour faire cette attraction, ils ont tout simplement cassé un clavier, soudé deux fils sur les broches du clavier et l'ont attaché sur un peu de mousse avec de l'aluminium et voilà, un gros bouton. Et le tour est joué. Donc on branche le clavier, on allume la machine, il y a déjà des choses comme Guitar Hero déjà fait, et hop, dès que l'attraction est bonne, dès que c'est fun, on passe à la suivante. Voilà. Alors après, il y a d'autres attractions qui étaient beaucoup plus sophistiquées. Il y avait cette année dans Niorhoff, il y avait une maison close. Il y avait une proposition que l'amusement pourrait non seulement être enfantin, ça peut être aussi adulte. Et donc un des dispositifs était, par exemple, là je pourrais citer donner l'exemple d'un distributeur porno où il y avait une caméra de surveillance qui détectait le visage des gens en train de regarder dans le distributeur porno le film, et ça intégrait leur visage sur les acteurs. Voilà. Donc là, ça nécessitait de la technique, on va dire de la haute technique. Hein, on utilise un système qui s'appelle OpenCV, que nous adaptons, qui a été créé par les scientifiques qui travaillent sur la vision machinique. Et avec un autre artiste, on est en train d'adapter ce système utilisé par des chercheurs universitaires au champ artistique pour que cela devienne plus accessible et malléable et pour qu'on puisse imaginer donc un distributeur porno. Voilà. Donc là, la technologie est arrivée pour rendre possible cette idée-là, mais dans les deux approches, vous sentez probablement que nous partons quand même d'un constat de ce qui est possible, de comment fonctionnent les machines.
Pierre Andrac, donc vous êtes le directeur technique de lieu public. Vous êtes artiste aussi?
Je ne me suis jamais défini comme artiste dans le cadre de mon métier. À d'autres moments, oui, mais en fait, ce qui est important, c'est qu'en tant que technicien, ce que je revendique complètement, c'est d'avoir une vision artistique et d'avoir autant que possible la capacité à entendre la vision artistique qui m'est proposée pour rendre possible cette vision de l'artiste en face.
Facile ?
Pas toujours. Des fois, oui. Parce que dans certains cas, ce qui est intéressant, c'est que l'artiste peut avoir une envie qui lui paraît très compliquée à réaliser, et qui en réalité, sur le plan technique, est très facile. Et d'autres fois, une idée qui paraît très simple et qui, techniquement, devient beaucoup plus compliquée. Sachant que le paramètre de la faisabilité, et un des paramètres importants de la faisabilité, reste les moyens qu'on a derrière, moyens financiers entre autres, et moyens humains, et le temps. Donc c'est vrai que mon boulot, c'est au quotidien d'essayer de rendre ça possible. Et ce qui est essentiel pour ça, c'est de pouvoir avoir un dialogue permanent avec l'artiste en face, donc qui dans mon cas change au fil des créations. Et même si depuis quelques années à lieu public, je travaille avec le même artiste qui est Pierre Sauvageau, le directeur de lieu public, c'est d'échanger pour pouvoir arriver à ce qui va être possible avec les moyens qu'on a, pour s'approcher le plus possible de l'idée qu'il a exprimée au départ. Et effectivement, dans ce cadre-là, j'interviens aussi comme artiste en amenant des idées qui vont pouvoir modifier ou remplacer celles qui me paraissent pas réalisables.
Vous intervenez à quel moment de la conception artistique d'un projet tel que ceux que mène Pierre Sauvageau? C'est dès le début de l'idée ou c'est parce que là, c'est pas dans un rapport d'exécution, si je comprends bien?
Voilà. Ce qui est très intéressant, effectivement, c'est que depuis que je travaille avec Pierre, j'interviens très tôt, dès le début de l'idée, dès la conception, et donc dès les premiers dessins. Ce qui permet, dès les premiers dessins, les premières idées, et d'avancer ensemble là-dessus. De pouvoir faire, j'ai la grande chance dans cette structure, de pouvoir faire des essais plus ou moins en grandeur réelle d'un certain nombre de choses qui me viennent à l'esprit ou de demandes de Pierre avant de pouvoir aller plus loin sur la modélisation et la réalisation finale. Par exemple, sur le spectacle Odyssée, donc qui est un spectacle qu'on a créé maintenant il y a trois ans, on a travaillé à peu près pendant 3 ans donc sur les différents morceaux techniques qui font que le spectacle est là, et l'idée étant que la technique devait être de toute façon au service du spectacle et ne devait pas être le spectacle, ce qui veut dire un certain nombre de choses. Et sur ce spectacle là on a travaillé en même temps sur des techniques très pointues, des techniques de vidéo, de la projection, des choses, et en même temps des techniques, j'allais dire ancestrales, des techniques de machinerie traditionnelle à l'ancienne avec de la manœuvre à main. Et on a en même temps, par exemple, un peintre qui fait du dessin sur une palette graphique qui projette son dessin avec un vidéoprojecteur sur les murs en face. Et le mouvement du vidéoprojecteur se fait de manière tout à fait manuelle par quelqu'un en bas qui tourne un volant et qui fait tourner l'ensemble comme un phare. Et c'est cet ensemble-là qui fait que, à l'arrivée, on a un spectacle qui devient presque magique, puisque la technique n'est pas là tout le temps. Elle n'est pas là tout le temps de la même manière. Du coup, l'envie, c'est de faire oublier au spectateur la présence de la technique. Ce qui ne veut pas dire que c'est la technique en soi est mal, loin de moi cette idée, mais c'est vrai que ça dépend vraiment des projets. Sur ce projet-là, c'est ça. Sur le projet de la transhumance mécanique, je dirais c'est presque l'inverse. C'est la technique qui est c'est l'idée technique, technologique qui est à la base du projet. Et à un moment, je pense quand même qu'à un moment, quand on va arriver au bout, on va oublier ça. Et que on va avoir des robots qui seront vivants et on oubliera que derrière, il y a toute la technique. On verra le résultat.
Alors cette question d'oublier la technique, c'est assez curieux parce que au début des arts de la rue, c'était pas vraiment les débuts, mais j'ai le souvenir d'avoir vu des spectacles de Royal de luxe tels que l'Histoire de France à l'Estac notamment, où justement toute la technique était montrée et était montrée en œuvre, et on voyait même les gens en train d'actionner les mécanismes, etc. Et ça faisait partie de l'esthétique du spectacle, et ça l'était encore pendant de nombreux spectacles des Royal de luxe. Et il y avait toute une esthétique justement où la technique était apparente. On avait l'impression que ça participait complètement du spectacle. Ça, c'est en train de disparaître. La technique est en train de devenir invisible pour faire émerger la magie, tout ça, alors qu'il y en avait de la magie là-dedans. Il y en avait beaucoup de magie, beaucoup de poésie aussi.
Je ne pense pas que ce soit faire disparaître la technique en tant que telle. C'est-à-dire que suivant le spectacle, suivant le projet, donc les spectacles de Royal notamment, mais il y en a d'autres, où La manipulation fait partie intégrante du spectacle, et ça devient, à un moment, ça devient un acte artistique au même titre que le reste, et non plus une manipulation technique. C'est-à-dire que c'est intégrer complètement l'ensemble des manipulations dont on a besoin dans l'objet artistique final, de manière à ce que on n'ait pas d'un côté des techniciens qui exécutent de la technique et de l'autre côté des artistes. À un moment, on a un spectacle avec tout un tas de gens qui travaillent dessus de manière plus ou moins technique. Et c'est l'ensemble qui fait le spectacle. On n'a plus de différence. Parce que c'est... Je pourrais l'opposer de manière plus... peut-être plus précise au spectacle dans une salle où à un moment, on a des techniciens qui sont cachés, qui sont derrière des rideaux, qui sont en régie, qu'on ne voit pas. Et on ne voit que les artistes sur scène avec le travail technique qui les souligne. Mais les techniciens ne sont pas présents. Mettre les techniciens en scène, ça devient, ils deviennent plus que des techniciens.
Ça arrive quelquefois.
Ça arrive quelquefois dans le théâtre de salle. Ouais. Et dans le théâtre de salle aussi. Et dans Odyssée, par exemple, les techniciens, les manipulateurs, ne sont jamais cachés. tout se fait complètement à vue. Ce qui est intéressant, c'est quand le spectateur oublie qu'il a affaire à des techniciens et à des artistes qui voient des gens qui font un spectacle et que c'est l'ensemble qui est spectaculaire.
Ah ouais. Parce que, justement, la dimension technique, quand elle est apparente, elle a un rapport au spectateur. Quoi. Je me demandais, je voulais vous poser la question surtout, est-ce que... comprendre la façon dont un dispositif scénique fonctionne ou une machine, un dispositif machinique des arts de la rue fonctionne, est-ce que c'est important pour la compréhension d'un spectacle, d'une proposition ou pas ? Est-ce que c'est un vrai enjeu artistique de montrer ça ou pas ?
Je pense pas que ce soit un enjeu artistique tout le temps, du moins. Et est-ce que c'est important ? Je pense qu'il y a des spectateurs pour lesquels c'est important et d'autres pour lesquels ça ne l'est pas. Et ce qui est important, c'est que chacun puisse, suivant son envie, comprendre comment ça marche ou pas du tout.
Douglas, dans les arts numériques, c'est important pour un spectateur de comprendre comment ça marche, ce qu'il a en face ?
Ça dépend de ce qu'on fait. Mais une des choses qui énerve énormément, on parlait tout à l'heure avant l'émission, des jurys extérieurs qui viennent dans l'école et qui doivent juger. Voilà, c'est le moment académique où on juge l'étudiant. Et s'il y a une chose que j'ai compris au bout de 10 ans qui va vraiment énerver un jury, c'est quand le jeune artiste va dire « Ah ben moi, je travaille avec le code artistiquement. » Alors là, ils n'en peuvent plus. Là, c'est « Non, non, mais là, vous ne comprenez pas, monsieur. Il y a l'artiste d'un côté, il y a le technicien de l'autre. Voilà. » Et pourtant, c'est ce que je disais au début, c'est ce que nous demandons, c'est qu'est-ce qui se passerait quand c'est l'artiste lui-même qui réalise la forme jusqu'à la réalisation finale de l'objet. Et nous essayons de penser même au-delà des questions artistiques, nous essayons de poser la question un peu, on va dire, quasi métaphysique, en tout cas, de qu'est-ce qui est en jeu dans cette transformation-là. Et moi, je ne pense pas qu'on peut, en tant que créateur, totalement évacuer cette question dans la façon dont les choses arrivent. Bon, ça, c'est une chose. Évidemment, quand on recule un petit peu et on le perçoit du point de vue d'un public en train d'interagir... Alors, moi, je suis... Au début... carrière, j'avais beaucoup travaillé, j'étais en plein milieu de ce mot interactivité, par exemple. Je le repousse de plus en plus. Mais bon, si on revient sur le mot interactivité, effectivement, il peut avoir dans un dispositif interactif un certain aspect, tu utilisais le terme tout à l'heure, magique, et qui peut même être intéressant. Mais cela peut aussi être intéressant, ça peut donner un autre point de vue. Et je l'ai fait parfois dans mes installations, où on a une première expérience de l'objet, et puis en ressortant, où le public, un autre public, observe l'objet d'un autre point de vue et on voit la machine de derrière, en quelque sorte. Et ça la permet de comprendre, ah tiens, il y a quelque chose qui est quoi, qui n'est pas neutre dans cette histoire. C'est-à-dire, il y a une machine où il y a un circuit, il y a un dispositif, et ce dispositif n'est pas passif devant celui qui le manipule, ou qui manipule le public.
Mathieu, Angela, pour vous, dans vos projets, la façon dont le dispositif technique est montré ou caché, est-ce que ça a une importance particulière ou pas ?
Alors, oui, je peux dire que ça a une importance, mais peut-être, juste pour revenir à ce qui a été dit un petit peu juste avant sur Royal Deluxe et le fait qu'on voit les techniciens en train de manipuler, je trouve que ça montre aussi une façon de... comment on construit l'imaginaire quand on propose quelque chose, et que finalement, je ne crois pas que ce soit plus comprendre que de voir les techniciens. Je crois que c'est plutôt que l'imaginaire, il n'investit pas les choses de la même façon, et le lieu de l'illusion, il n'a pas besoin de cacher les techniciens. Ça ne veut pas dire que quand ils sont cachés, c'est pas bien, hein, c'est pas du tout. Mais c'est une façon, en fait, de montrer un moment, un spectacle, une dimension imaginaire avec cet ensemble-là, quoi, où c'est visible. Après, pour ce qui nous concerne, bon, c'est pas du tout du même registre, mais c'est vrai que là, le fait de montrer que ce soit des machines dans le sens un peu gras, enfin, du terme, quoi, c'est-à-dire des machines qui ne sont pas lisses, qui ne sont pas justement comme celles qui nous entourent, qui sont faites pour qu'on oublie que ce soit des machines, qui sont faites juste pour augmenter, enfin très souvent quand même, nos potentialités humaines, et qui sont aussi faites pour qu'on oublie que des gens soient intervenus dessus. Enfin, c'est quand même une certaine esthétique de la machine. Or, nous, on va justement investir, enfin, pour le coup, les gens qui la fabriquent investissent la forme complètement différemment. Et c'est en fait quel imaginaire est suscité, parce qu'on parle de technique, on parle d'art et technique, mais quelle technique ? Enfin, la technique, c'est quand même un champ très, très large, autant que l'art. Donc là, ce serait une technique qui a sa complexité, mais qui ne cherche pas à créer une illusion de ce qu'elle est. Voilà.
Mathieu, tu veux dire...
Oui, concernant la technicité, c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas beaucoup. J'ai l'impression que l'objet technique, soit c'est l'objet technique en lui-même qui est la finalité. Je n'ai pas l'impression que ce soit très intéressant. Soit il est conçu dans un but précis, et là, il peut être caché ou montré. Bon, ça, c'est selon les besoins. Voilà. Pour notre projet, c'est l'objet technique qui est la brique élémentaire du langage qui va être développé. Donc, il existe en tant qu'objet technique, mais c'est pas l'objet technique en lui-même n'est pas la finalité. C'est ce qui va produire par lui-même et dans l'imaginaire des gens.
Jeannie Jérémy, donc chorégraphe de la compagnie Les Migrateurs Transatlantiques, mais qui suit de près là, un projet de Pierre Sauvageau, auquel participe de près, de très près également Pierre Andrac, directeur technique de Le Public. C'est chant harmonique. Alors chant, ça s'écrit CHAMP. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ce projet qui donc va mettre au moins 3 ans entre l'idée et sa réalisation, si on prend la mesure du temps qui semble avoir été posé par les exigences de Pierre Sauvageau.
Juste avant, je voulais reparler de cette histoire de technique. Parce que dehors, il y a une chose qui n'est souvent pas dedans, c'est qu'on a le jour et la nuit. Et ça joue énormément dans le travail et de la technique et des techniciens. Le même spectacle de jour aura pas... On a pas du tout les mêmes contraintes. Enfin, on a beaucoup plus de contraintes. Donc, quand tu parlais tout à l'heure du Royal, notamment, c'est une exploitation. En dehors du fait qu'il fallait faire un peu, pas contre, mais différent de la scène, qui est, elle, la boîte fermée.
Choses sont en général cachées.
Oui, bien sûr.
Dans la rue, on montre.
Dans la rue, on a montré à une certaine époque. Mais en plus, quand on fait de jour, on se retrouve avec... Là, d'un seul coup, il faut la traiter, cette esthétique. Sinon, on est battu, quoi. Enfin, je veux dire, c'est quasiment obligatoire de traiter cette esthétique à partir du moment où on se pose la question de faire des spectacles de jour. Et ça, c'est une chose dans la technique qui est très importante. La rue, pour ça, elle a, l'espace public en général doit absolument traiter cette chose-là. Sinon, on passe à côté de... Voilà, c'était un petit supplément par rapport à cette histoire de technique. Alors, chant harmonique. Harmonic Field. Pour. Voilà. En plus, on s'amuse.
Pour les musiciens contemporains.
Tant qu'à faire. Voilà. Ben oui, Pierre Sauvageau donc, a prévu de faire une sorte d'orchestre, en tout cas une symphonie, de créer une symphonie au bout du compte avec des instruments éoliens. Donc, qui sont sonores. Donc, certains existent. Il y a des petites éoliennes balinaises qui viennent du Bali. Hein. Je crois que Le Public en a acheté 1000, qui sont des petits objets qui font 50 cm de...
Décidément, Le Public, vous avez des moyens.
Hein. Non, il ne faut pas croire ça, parce que, enfin bon, ça, c'est des histoires... Voilà, c'est des histoires un peu complexes. Il se trouve que ces petites éoliennes, maintenant, elles servaient donc, elles servent toujours à Bali pour effrayer les oiseaux dans les champs. Et en fait, donc tout le monde a ces petites éoliennes avec sa petite girouette. C'est des objets très très jolis, mais comme, enfin souvent, c'est des objets qui sont fabriqués vraiment, c'est rien quoi, c'est très fragile. Et donc Pierre Sauvageau en a fait fabriquer. Là-bas, ils sont revenus ici et du coup, il y a toute la technique qui est là pour changer les marteaux, mettre des vraies notes de xylophone, des choses comme ça, sur ces balinaises qui vont agrémenter ce parcours. Et en dehors, bon, ça c'est une base, on va dire. Et en plus, il y a toute une série d'instruments fabriqués. D'autres qui arrivent par des personnes qui sont dans le nord de la France, dans la Somme, et qui ont elles-mêmes fabriqué des objets, mais pas pour faire des spectacles, juste comme ça, pour leur plaisir. Et donc là, à lieu public, il y a une fabrication depuis quelques mois d'objets plus ou moins importants, de tailles différentes, avec des systèmes différents, soit des bambous coupés, soit ça va être du système où le vent va rentrer directement, soit ça va être des choses qui vont être frappées, où il va y avoir des hélices, des systèmes d'hélices, d'autres systèmes avec des soufflets, qui font que, voilà, il va y avoir tout un jeu qui va être fait par le vent et qui va être et dont les instruments sont quand même assez précis. Ils ont un son. Il faut faire attention, justement, tout à l'heure je disais il y avait des sons de guitare à un moment, on les a un peu éliminés, c'était pas terrible comme son. Enfin, donc Pierre est compositeur, Pierre Sauvageau est compositeur, Pierre Andrac est lui-même très proche du son, c'est un artiste du son, on va dire. Donc de ce point de vue-là, il fallait construire quelque chose par rapport à ça. Voilà. Donc ensuite, mon travail va être dans la résidence qu'on va faire sur l'île de Terschelling, au nord d'Amsterdam, donc à un endroit où il y a plein de vent, trop de vent. Et donc on va essayer, non pas de maîtriser le vent, mais de faire entrer le public dans des zones et de composer, peut-être pas une symphonie tout de suite, mais en tout cas un truc qui est concertant et que le public pourra entendre au fur et à mesure, sans faire autre chose que de se déplacer dans cet espace musical.
Pierre, quelles vont être les principales difficultés techniques sur ce projet ?
Il y en a un certain nombre qu'on a déjà vu. Par exemple, la première difficulté à laquelle on a été confronté, pour l'instant on a mis de côté, on l'a mis de côté d'une manière particulière, c'est qu'il n'y a pas grand-chose de plus difficile que de faire sonner un instrument avant avec du vent. Si on met un instrument à vent dans le vent, ça ne marche pas. On a essayé de canaliser le vent, de mettre des entonnoirs, de faire des voiles, de faire différents essais. Et en fait, en avançant là-dedans, en cherchant d'un peu plus près la technologie, comment ça fonctionne, on a fait une petite résidence d'une semaine avec un facteur d'orgue qui nous a expliqué comment il travaillait. Et en fait, il s'avère que pour faire sonner un instrument à vent, il faut un couple très précis, débit d'air, pression d'air. Et que si on n'a pas ce couple-là, donc il y en a toute une série qui fonctionne pour chaque instrument, on ne peut pas faire sonner l'instrument. Et ça, dans le vent direct, on n'y arrive pas. Donc on a, pour le coup, contourné le problème dans un premier temps, peut-être qu'on va y revenir, en se servant d'une éolienne, d'une hélice, qui, en transformant le mouvement rotatif en mouvement alternatif, pour gonfler des soufflets, et à ce moment-là, reproduire le mécanisme d'un orgue, qui nous permet d'avoir un débit d'air qui sera maîtrisable, lui, pour faire sonner quelques instruments avant. Quelques instruments avant qui existent, des instruments avant qu'on fabrique aussi. Donc on est en train de fabriquer aussi quelques tuyaux d'orgue en acier, en plastique, différentes choses. En fait, l'objet, c'est de faire plein d'essais. Le plus gros problème qu'on va avoir, après les premiers essais, c'est non pas dans un premier temps, on se disait comment on va faire quand il y aura trop de vent. Paradoxalement, le souci le plus important, c'est que c'est pas assez de vent. Ça va être, c'est ça qui est le plus difficile, c'est d'arriver à lancer les systèmes, en même temps à éviter qu'ils s'emballent. Mais vu qu'on a en même temps aussi une contrainte esthétique de la part du scénographe, qui est de faire en sorte que les hélices, toutes les hélices qu'on utilise, ne ressemblent pas à des hélices. Et il se trouve, et là, c'est plutôt une chance, c'est qu'une hélice ressemble à une hélice parce que c'est la forme optimale pour que ça entraîne bien et ça soit bien entraîné par le vent. Et plus on s'éloigne de cette forme, moins elle est efficace et donc moins elle va tourner correctement. Ce qui fait qu'à un certain moment, on va fabriquer ce compromis-là entre une hélice qui elle-même va se ralentir toute seule quand elle va tourner trop vite. Donc c'est un des problèmes, je dirais, qu'on peut espérer avoir résolu. On va le voir quand on va être dans les vraies conditions avec du vent continu, puisque un des autres soucis qu'on a eu, c'est de s'apercevoir que Marseille n'est pas une ville ventée. Et qu'en fait, plus exactement, le vent qu'on a dans toutes les villes, pas à Marseille, à Marseille en plus il peut varier dans des proportions très importantes, est un vent qui est tellement turbulent qu'en fait il n'est pas utilisable correctement pour faire fonctionner des éoliennes et ce genre d'instruments. Du coup, ça va nous poser d'autres soucis. On verra comment on peut le transposer ce spectacle quand il sera terminé dans des espaces plus urbains. Mais il semble, dans un premier temps, qu'on soit obligé de sortir des espaces urbains pour retrouver des espaces beaucoup plus vierges, beaucoup plus plats, où on arrive à avoir un vent qui peut être plus régulier pour pouvoir mieux maîtriser ce qu'il va produire. Après, on s'amuse beaucoup en ce moment. On passe de petites choses, de petites hélices avec du mécano, avec différents jouets d'enfants, à des choses beaucoup plus importantes. L'atelier en ce moment dans le public résonne de serruriers qui travaillent sur des machines plus importantes, d'essayer d'inventer des systèmes à percussion. Et puis on réutilise tout un tas de techniques anciennes qu'on remet au goût du jour. Mais les soucis, oui, les premiers soucis, c'est comment on fait pour que ça démarre avec un vent faible et que ça ne s'emballe pas quand le vent forcit. Et puis, ça va être comment on va faire sonner des instruments avant. Un des soucis qu'on verra plus tard, qui pour l'instant on l'a mis de côté, c'est est-ce qu'on va trouver un moyen simple de stocker l'énergie du vent sans passer par de l'énergie électrique, puisque le concept même de ce projet, c'est de ne jamais utiliser d'énergie électrique, même pas en la transformant, en transformant le vent en électricité. Ça serait trop simple.
Dès que vous stockez, vous êtes dans une logique d'électricité.
L'idée, c'est d'être de faire du stockage qui ne soit pas électrique, de faire du stockage strictement mécanique.
Est-ce que c'est possible de faire un stockage de vent où le vent continue à tourner comme vent? Donc forcément, il y a transduction quelque part.
On ne va pas stocker le vent. Le vent n'est pas stockable.
Ce serait très beau. Hein. Ouais. On va demander à Panamarenko et d'autres de nous imaginer des appareils. Mais...
Est-ce que Pierre Sauvageau intervient sur ce genre de questions ou est-ce que c'est délégué complètement à Pierre Andrac qui se débrouille
Non, il intervient. Et Tony Casalong, qui est le scénographe, qui travaille lui sur l'esthétique des objets qu'on fabrique, intervient aussi. Et c'est vraiment un travail à trois là, sur les objets, vraiment, avec un regard un peu plus extérieur de Janie, qui est important aussi pour un moment nous faire sortir de nos délires individuels. Mais c'est vraiment ce travail à trois qui fait qu'à un moment, on arrive à quelque chose. C'est vrai que Pierre, il a des envies. On essaie de les réaliser. Et puis ça va amener il y a des solutions. Les solutions vont amener d'autres problèmes. Et puis on va échanger avec Pierre et puis on va faire des choix là-dessus. Dans un premier temps, par exemple, l'idée de mettre de côté, d'essayer de faire sonner des instruments avant directement sans passer par un soufflet intermédiaire, c'est un choix qu'on a fait avec Pierre. On y reviendra parce que ça reste une idée qui est assez magique. Faire sonner un instrument avant au vent, c'est magique. Faire des instruments à cordes qui sonnent au vent, on a tous entendu, et surtout à Marseille, sur le port, les jours de vent, le son produit par l'ensemble des haubans tendus. Donc ça va être de faire des instruments à cordes à vent qui sont maîtrisés, qui font des notes connues, qui va nous permettre d'avoir à la fin du projet quelque chose qui soit de l'ordre d'une vraie écriture musicale et pas d'une installation sonore.
Mathieu et Angela, est-ce que vous avez affaire à la même complexité face à la transhumance mécanique, au même chemin un peu d'expérimentation, ou c'est plus simple, plus rapide?
Forcément, oui, on expérimente beaucoup et il y a beaucoup, beaucoup de problèmes qui se posent en permanence. Je dirais comme Pierre que... Dans le processus de création, c'est vraiment un aller-retour entre des problèmes qui se posent à un moment, qu'il faut résoudre avec une ligne directrice, un point vers lequel on essaye de tendre. Mais la résolution d'un problème en amène souvent un autre.
Et à un moment, il faut qu'on puisse utiliser l'ensemble de ces problèmes, des solutions qu'on a pu apporter à un moment, pour produire un objet qui donne envie de le suivre, pour ce qui est de la transhumance. Il s'agit de suivre un troupeau de machines. Plus concrètement, voilà, les problèmes qu'on a, ils sont d'ordre surtout de la cohabitation entre un univers théorique, algorithmique, et l'univers réel, concret, de la matière. Il est aussi dans la cohabitation d'une électronique assez fine, assez sensible, avec des étages qu'on peut dire de puissance. Donc qui gère la locomotion du véhicule, tout ça dans un espace très, très restreint. Et on est en permanence en lutte avec des rayonnements électromagnétiques. Et c'est ça le principal de notre problème au quotidien. Mais après, bon, forcément, il y a des problèmes d'ordre plus conceptuel dans la maturation de l'algorithme général, et puis d'algorithmes dédiés plus précisément à telle ou telle fonction. Voilà, on manie des choses assez complexes. Je pense que
vous êtes obligé d'aller chercher des compétences un peu ailleurs ou pas?
On essaye plus possible de travailler entre nous. Bon, bien sûr, c'est un milieu très ouvert, en fait, le milieu de la robotique. Il est surtout investi par des roboticiens de loisirs, mais des gens qui peuvent être très intéressants par ailleurs, ou en tout cas des gens pour qui la finalité est vraiment l'objet technique en lui-même. Et ils se rendent compte pour ça, et du coup, ils trouvent des solutions, et c'est des gens qui sont très ouverts, donc avec qui on peut discuter. Tout ça, ça se passe sur le réseau, bien sûr. Des compétences extérieures, si. Moi, je m'appuie beaucoup sur la parole d'Angela pour peut-être donner un appui plus sûr en ce qui concerne la démarche générale, les choix formels. Le fait d'assumer un choix formel qui est surtout axé sur des nécessités techniques, mais qui doit être assumé comme tel, tout en ne s'arrêtant pas là. Voilà, je ne saurais pas dire.
On arrive à la fin de cette émission. Donc, pour conclure, peut-être, Douglas, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur... Non, mais on va faire un petit tour de table rapide, juste pour dire sur quoi vous travaillez en ce moment, quels sont les projets qui risquent d'aboutir dans peu de temps.
Je travaille beaucoup en ce moment, seul et avec les jeunes étudiants, artistes avec lesquels je travaille, beaucoup en ce moment sur Twitter. Donc, toute cette pensée du hive mind, de la pensée collective qui émerge en ce moment sur le réseau. Donc, on imagine des programmes, des dispositifs qui vivraient en réseau, certains qui sortiraient ces flux, ce zeitgeist qu'on a à travers Twitter et qu'on réinsère à travers des objets, parfois des objets physiques ou parfois à travers des films. Voilà, donc ça c'est une des choses qu'on est en train de faire parmi plein d'autres.
Mathieu, Angela, donc il y a la transhumance mécanique, ça va aboutir quand la transhumance mécanique? Il y a une deadline ou pour l'instant c'est juste de l'expérimentation?
Non, moi je m'étais fixé des objectifs assez ambitieux, c'est-à-dire d'avoir une première au printemps 2010. Ça me semble complètement irréaliste, mais bon, pourquoi pas? On ne sait jamais. C'est vrai qu'on est confronté quand même à des problèmes aussi budgétaires parce que ces petites choses coûtent énormément d'argent. Ça te prend énormément de temps et que pour le moment, on en est vraiment à des phases d'expérimentation qui ne sont pas forcément très attrayantes pour quelqu'un de l'extérieur. On commence à arriver là à une machine qui est une base de développement sérieuse pour nous. Donc en fait, le travail a commencé depuis longtemps, mais on peut vraiment maintenant s'attaquer à des problèmes concrets, donc qui vont pouvoir nourrir l'écriture du spectacle maintenant. C'est ça en fait la prochaine étape, vraiment, c'est de se servir de ce prototype pour construire l'écriture du spectacle. Ça, l'échéance, c'est pour l'automne 2009. On a une résidence d'écriture avec lieu public, prévu en novembre, je crois.
Et vous travaillez simultanément sur des commandes de fabrication de machines ou pas, là, en ce moment?
Là, je me suis accordé un temps spécifique et à temps complet pour ce projet, parce que c'est très difficile. Enfin, moi, j'arrive très, très mal à jongler d'un projet à un autre. J'arrive bien à me concentrer sur quelque chose. Et... Mais bon, là, il va falloir que je retourne gagner un peu ma vie. Et je me remettrai sur ces prototypes dès que possible.
Pierre et Jeannie, vous, c'est l'île Aurore, Trecheling, du 12 au 21 juin, c'est ça? Et après, l'été va être chaud?
Oh non, l'été n'est pas chaud.
Pas chaud?
Non, il n'est pas chaud. Bon, 2009, l'été n'est pas chaud.
Très bien. Je remercie Jeannie, Jérémy, Pierre Andrac, Mathieu Audejean, Angela Frère, Douglas Eric Stanley d'avoir participé à cette discussion. Je rappelle qu'on était en direct et en public du Longchamp Palace, sur le boulevard Longchamp. Le Longchamp Palace que je remercie encore une fois. Spéciale dédicace à Bernard Lopis. Merci à Tony également, technicien de radio. Grenouille, et à Gilali ou Sébastien, je ne sais pas, qui était à la régie et à la radio. Merci d'avoir été à l'écoute et à bientôt sur les 3-8.